Bonjour Clément Beaune.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes député de Paris, porte-parole de la campagne des européennes pour Renaissance. Avant d'évoquer ces élections du 9 juin, le Proche-Orient et ce rendez-vous manqué hier, un de plus, alors que le Hamas déclarait donner finalement son accord pour la trêve proposée par les médiateurs du Qatar et de l'Égypte, les bombardements israéliens ont débuté hier soir sur Rafah. Pour quelle raison, Clément Beaune, depuis octobre, la voix de l'Europe semble aussi inaudible entre celle des États-Unis, celle des médiateurs, Qatar, Égypte, on ne l'entend pas.
Beaucoup de pays européens sont mobilisés, la France au premier chef. Notre ministre des Affaires étrangères était encore dans la région il y a quelques jours pour essayer, nous sommes un des rares pays à savoir le faire, de parler à toutes les parties. Évidemment avec Israël, avec beaucoup de pays arabes de la région, et nous avons contribué notamment à apporter de l'aide humanitaire, je pense, pour les Gazaouis ces dernières semaines, ces derniers mois. L'Europe en tant que telle, l'Union européenne, dans cette région, disons-le franchement, ne pèse pas assez, et pèse même très peu en tant que telle.
Et le haut représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère lui-même, d'ailleurs, le reconnaît. Josep Borrell dit les divisions sont là et, en quelque sorte, je ne peux rien faire.
Pourquoi il y a un problème général qui est que l'Union européenne, je le déplore, on pourra en reparler sur la réaffirmation, l'affirmation géopolitique de l'Europe, est une puissance diplomatique récente. Le haut représentant, c'est une fonction qui existe depuis une dizaine d'années, ce qu'on appelle le Service européen d'action extérieure. En quelque sorte, le ministère des Affaires étrangères de l'Union européenne est aujourd'hui encore un organe relativement jeune et relativement faible. Il y a beaucoup, je le rappelle quand même, d'aide humanitaire, on ne le dit pas assez, qui est apportée par l'Union européenne, par les pays européens, mais aussi par l'Union européenne, notamment en aide aux Gazaouis aujourd'hui. Donc il y a une action européenne pas assez visible et puis pas assez coordonnée. On le sait, pour des raisons qu'on peut comprendre, historique, de sensibilité différente d'un État membre de l'Union européenne à l'autre. La relation à Israël, la relation à l'autorité palestinienne, la relation au Proche-Orient n'est pas la même en termes d'influence, en termes de sensibilité. Et l'Union européenne vit parfois avec ses contradictions ou ses difficultés à créer de l'unité. Et je pense qu'il faut assumer que dans certaines crises internationales, c'est pas l'Union européenne en tant que telle qui, à court terme, pourra peser parce qu'elle n'a pas le poids militaire, elle n'a pas le poids géostratégique, et que dans d'autres, je pense à l'Ukraine, parce que la crise ukrainienne ne s'est pas arrêtée malheureusement pendant ce temps, là il y a un rôle européen beaucoup plus fort, donc il faut que l'Union européenne qui est jeune apprenne aussi à sélectionner un peu ces théâtres d'intervention. On peut regretter qu'elle soit pas plus présente partout, notamment au Proche-Orient, mais la France doit jouer un rôle d'avant-garde ici quand l'Union européenne en tant que telle ne peut pas le jouer.
Les élections européennes dans un mois, Clément Beaune, vous avez hier avec la tête de liste Valérie Ayé dévoilé vos 48 propositions de campagne. Alors il y a un plan Europe 2030 de 1000 milliards d'euros de fonds publics dans les secteurs de l'énergie, des transports, du numérique, de la santé, de l'espace. Et il y a, je voudrais qu'on s'arrête là-dessus, 100 milliards d'euros d'investissement pour la défense. Au-delà des chiffres, qu'est-ce que ça signifie et jusqu'où faut-il aller dans la construction d'une défense européenne commune?
Cela signifie que la priorité aujourd'hui, ce sont justement ces questions de sécurité et de défense. Le premier discours de la Sorbonne du président de la République, il y a 7 ans, commençait par les questions de sécurité et de défense, alors même qu'il n'y avait pas la guerre d'Ukraine sur notre continent, ce qui montre bien qu'on a, je crois, lucidement approché ce sujet extrêmement sensible, fait des progrès. On a créé un budget européen de défense qui a permis justement d'apporter dans les tout premiers jours de l'agression russe un soutien à l'Ukraine, des munitions, un soutien civil aussi. Et il faut aller plus loin parce qu'on voit bien que ces menaces diverses ne vont pas disparaître. On a parlé en quelques mots de 2 crises majeures au Proche-Orient en Ukraine. On voit bien que les cyberattaques, pour ne prendre que celles-ci, visent directement les démocraties européennes, depuis la Russie par exemple. On voit bien que l'agressivité internationale, la brutalité internationale va se renforcer. Donc il faut
aller plus loin, ça signifie
aller plus loin, il faut avoir des outils communs. Ça ne veut pas dire que l'Europe fait tout à l'échelon de l'Union européenne. Par exemple, le réarmement que nous avons décidé sous l'autorité du président de la République, c'est un doublement de notre effort de défense nationale. Il faut aider et inciter les autres pays européens à faire de même.
Oui, il y a cette idée de sanctuariser une partie du produit intérieur brut, en fait.
Oui, absolument.
Du budget
la cible des 2%.
Sur la défense, vous pensez que ce sera accepté, ça, par les partenaires des 27?
De plus en plus de pays se sont réveillés et ont augmenté leur effort de défense, y compris l'Allemagne, par exemple, ces dernières années. Donc ça, c'est une cible commune. C'est 2% qu'il faut sans doute même augmenter jusqu'à 3% du PIB consacré aux dépenses de défense, on le dit dans notre programme. Et puis, il faut des outils communs. On a un budget européen de défense, il faut faire grandir. On n'a, par exemple, pas encore une force de réaction rapide. C'est pas une force type armée européenne. C'est, par exemple, une force qui pourrait aider des ressortissants européens. On l'a vécu, malheureusement, à Kaboul il y a quelques mois, dans des situations de tension, à évacuer en urgence. Et puis, il faut soutenir, je pense que c'est ça la grande priorité aujourd'hui, parce que c'est la grande faiblesse européenne, nos industries de défense. Si on veut produire plus, se réarmer, pour l'Ukraine ou pour d'autres terrains, eh bien, on a besoin de financement. Et donc, on propose un fonds européen de soutien aux industries de défense de manière souveraine, c'est-à-dire avec une préférence européenne pour soutenir des industries qui sont localisées en France et en Europe.
En présentant ses propositions hier, Valérie Ayé a dit ces mots. Elle a dit il s'agit d'un programme ambitieux pour que l'Europe ne meure pas. Ça fait partie désormais de votre stratégie assumée d'évoquer la possible mort de l'Europe. C'est ce qu'avait fait Emmanuel Macron à la Sorbonne, dramatiser l'enjeu pour mobiliser Clément Beaune.
C'est malheureusement pas une stratégie assumée, c'est un constat de lucidité. Que l'Europe, qui est
mais
un projet politique...
Mais quand vous dites la mort de l'Europe, oui. Ce serait quoi? Ce serait une paralysie, peut-être temporaire, projet... si les populistes, les extrêmes l'emportaient le 9 juin prochain?
Bien sûr.
C'est à cela que vous pensez?
Bien sûr.
Ça le signifie projet... pas forcément la mort de l'Europe.
Le projet politique européen, il est très jeune. Il a 70 ans. Il n'a pas toujours existé. Quand il n'a pas existé, on a vu ce que ça donnait dans l'affrontement et la destruction interne de l'Europe. Et donc ce projet politique est une garantie de paix, il faut le redire aussi. D'où le fait que, par exemple, même en guerre, l'Ukraine dise déjà maintenant « je veux rentrer dans cette Union européenne demain le plus vite possible ». Eh bien, il faut le préserver. Et on a vu que ce qui paraissait impensable est devenu possible. La sortie d'un État de l'Union européenne, on pensait que ça n'arriverait jamais. Le Brexit, c'est un choix souverain britannique, je le respecte, mais ça a été possible. Ça s'est fait, je crois d'ailleurs, au détriment du Royaume-Uni. La guerre sur notre continent, aux portes de l'Union européenne, on pensait que c'était impossible, que c'était réservé à d'autres continents, d'autres terrains. C'est chez nous aujourd'hui. Malheureusement, cette guerre est partie pour durer. Donc si on ne prend pas conscience que cette Europe n'est pas un acquis, n'est pas une donnée, mais qu'elle mérite d'être défendue, je pense qu'on fait une erreur grave. Et moi, je veux que ma génération soit celle, non pas d'une Europe qui se repose, d'une Europe qui considère qu'elle va toujours survivre quoi qu'il arrive, mais qui se batte pour la renforcer sur les questions de défense, sur les questions d'autonomie commerciale, industrielle, sur les questions écologiques. Et donc, ça vaut le coup, je crois, de confier cette responsabilité à celles et ceux qui se sont battus avec des résultats ces dernières années, nos députés européens, pour cette Europe.
Pour l'instant, la liste RN de Jordan Bardella fait la course en tête. Un dernier baromètre publié hier par Les Échos la donne à 31% contre 17 pour la liste Renaissance, 14 pour la liste PS de Raphaël Glucksmann. De ces deux adversaires, le plus redoutable pour vous n'est-il pas le plus proche politiquement, Clément Beaune? Raphaël Glucksmann qui attire à lui des déçus du macronisme. Le RN, vous l'attendiez, il est très haut, il reste très haut. Raphaël Glucksmann, c'était moins attendu.
Mais je ne mets pas les choses sur le même plan et je ne me trompe pas d'adversaire. L'adversaire de l'Europe est notre adversaire politique pour cette élection comme pour les autres, mais peut-être encore plus pour cette élection, parce que ce sont les anti-européens aujourd'hui cachés, c'est l'extrême droite. La liste de Jordan Bardella, la liste de Marion Maréchal. Maintenant, je vois bien qu'il y a un discours de Raphaël Glucksmann qui consiste à dire, je suis pro-européen, vous pouvez faire à la fois un vote sanction si vous voulez critiquer le gouvernement sur certains points, et puis voter pour l'Europe. Mais il faut une Europe efficace. Et Raphaël Glucksmann, sur les grands sujets, soit il n'a pas voulu se salir les mains sur la question asile-migration, il faut faire des compromis. Il n'a pas voulu les assumer, alors même que son parti politique européen les a assumés. Sur la loi climat, il a dit c'est pas assez ambitieux, alors que c'était un progrès majeur. Faire l'Europe, c'est aussi accepter des compromis et des avancées. Et je crois qu'aujourd'hui, les seuls qui sont efficace au niveau européen et pro-européen, c'est nous.
Il nous reste 5 secondes. Le vote sanction que vous évoquiez, vous le craignez? On voit une nationalisation du débat européen en France?
Je combats cette nationalisation parce que c'est pas l'intérêt des électeurs de louper un scrutin européen qui n'est que tous les 5 ans et qui est vital.
Merci Clément Beaune.